Le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, relation nord-sud et l'éthique, est un sujet qui demande toute notre attention, un sujet qui va nous renvoyer chacun d'entre nous, non pas simplement à une réflexion théorique. Encore une fois, les organisateurs de cette tournée ont choisi, cette tournée de conférences ont choisi des sujets extrêmement forts. Nous avons parlé des relations avec la science. Il y a quelques jours de cela, nous avons parlé de la situation des musulmans en Europe. Avant-hier, nous parlions de la situation de l'islam par rapport à la réflexion sur l'intégrisme. Et aujourd'hui, il y a un problème crucial pour nous tous, qui est celui de la relation nord-sud. La première chose qui me paraît particulièrement intéressante dans ce sujet est une chose à laquelle j'aimerais renvoyer tous ceux qui, dans la salle, sont français de confession musulmane, mais également tous les autres, mais spécifiquement ceux-ci dans un premier temps, pour que l'on comprenne bien la dimension du sujet qui nous est proposé. Souvent, les musulmans et les musulmanes pensent que l'on parle d'islam ou que l'on se réfère justement à nos références ou que le sujet que nous traitons est d'ordre musulman quand nous nous référons à des références religieuses ou quand nous parlons de la vie du prophète de l'islam. Or, avec un sujet comme celui-ci, nous allons traiter vraiment de questions humaines. Nous allons traiter de questions fondamentales, de questions de justice. Et pour un musulman comme pour une musulmane, traiter avec objectivité, traiter de la façon la plus scientifique qui soit, des processus et des dynamiques humaines, des articulations dans des processus et des logiques économiques, des réalités sociales, des injustices caractérisées, les analyser avec objectivité, essayer de chercher une solution, même si dans toutes nos références, dans toutes nos réflexions, nous ne sommes pas en permanence en train de faire la référence d'un verset ou le rappel d'un moment, toute notre réflexion est nourrie par un souci de plaire au Créateur. Et tout ça participe aussi d'une démarche de quelqu'un qui croit et qui cherche la justice. Et que être musulman, ce n'est pas quand on réfléchit en permanence, faire référence aux notions musulmanes, c'est d'être scientifique quand il faut être scientifique, objectif quand il faut être objectif, étudier en profondeur quand la profondeur s'impose, et analyser le monde. Analyser le monde, c'est comme ceci aussi que par rapport à nos références, nous devons nous situer. Notre façon d'être au monde suppose aussi une formidable observation et un approfondissement. Et je suis content d'un sujet comme celui-ci qui apparemment dans le titre ne réfère pas à la dimension islamique ou religieuse, mais qui impose à chacun d'entre nous une objectivité à laquelle il doit se tenir au nom de sa conscience et au nom de sa foi. Alors, j'aimerais introduire le sujet qui est le nôtre en faisant comme je me suis habitué à le faire avec vous, en vous présentant d'abord simplement quelle va être l'articulation du propos. D'abord, dans un premier temps, simplement rappeler, en guise d'introduction, un certain nombre d'éléments de réalité comptable, de chiffres par exemple, ou de constats objectifs qu'il faut faire quand nous sommes des êtres humains et quand nous observons le monde aujourd'hui. Après cette introduction, il y aura une première partie à l'exposé. Cette première partie de l'exposé sera liée à la mise en évidence d'un certain nombre de paramètres, un certain nombre de réalités que nous avons pu observer durant ce siècle. Donc la réalité d'un siècle sur la question des relations nord-sud. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'avons-nous remarqué depuis le début des années 1900 jusqu'à aujourd'hui, la fin de notre siècle? Un certain nombre d'éléments sont à mettre en évidence. La troisième des parties sera celle qui traitera en prolongement de la réalité de ce siècle de la mondialisation, pour voir effectivement ce que l'on peut en dire. Pour terminer, et ce sera la dernière partie, sur un certain nombre de questionnements, mais également d'engagements, mais également de projets que nous auxquels nous pouvons penser et auxquels nous devrions nous engager davantage, vis-à-vis desquels nous devrions nous engager pour promouvoir dans nos relations Nord-Sud une éthique à visage humain pour tout être qui défend devant Dieu ou en sa conscience la réalité de la dignité humaine, mais également son respect et sa défense. Donc, trois parties. Mais avant de nous engager dans ces trois parties, quelques constats par rapport à la réalité. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes lourdement trompés. Lorsque nous avons pensé, lorsque l'on nous destinait à la fin des années 40, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que le double processus de reconstruction des pays industrialisés après la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que le processus de décolonisation des pays pauvres et des pays qui jusqu'alors étaient soumis à une tutelle politique, nous nous sommes trompés lorsque nous avons pensé ou que l'on nous annonçait que ce double processus allait permettre aux pays du monde d'avoir accès à un développement. La réalité qui était celle que l'on nous dessinait d'un monde qui allait vers le meilleur, avec des pays riches en reconstruction et des pays pauvres en développement parce que désormais indépendants, a montré ses limites, et aujourd'hui c'est exactement le contraire qui s'est passé. Nous nous sommes trompés, et ce qui est très très étonnant, c'est que nous multiplions depuis les années 40 les erreurs d'analyse en matière de développement. La réalité, c'est que je parle ici du courant dominant, car certains nous avaient annoncé que le type de développement proposé, que l'économie libérale telle qu'à la fin des années 40 et au début des années 50 se traduisait dans le monde, allait permettre le développement de tous par la synergie des intérêts particuliers, eh bien, montrer ses limites. Aujourd'hui, ce que nous percevons, c'est que jamais le fossé entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches n'a été aussi important. Que ce qui nous avait été présenté comme la convergence des intérêts en même temps que le nivellement des niveaux de vie, a présenté le visage exactement inverse. La réalité aujourd'hui, c'est que 17% de la population mondiale détient 83% des, ou 84% des richesses. 17% de la population mondiale détenant 84% des richesses du monde. Cette réalité-là, c'est la réalité des chiffres et nous le savons. Pire, les chiffres parlent, on a parlé de 30 millions de morts et de victimes de cette situation-là. Chaque jour qui passe, sur la base des statistiques qui ont pu être faites et établies par les Nations Unies, chaque jour qui passe, la réalité de notre monde, de ce système qui perpétue ces injustices, c'est la réalité de 40 000 personnes qui meurent de faim. 40 000 personnes, c'est-à-dire que statistiquement, lorsque ce matin vous vous êtes réveillé et ce soir vous vous coucherez, l'ordre du monde présente la réalité de 40 000 morts. Ce n'est pas une violence par les armes, mais c'est la violence d'un système qui, parce qu'il n'utilise pas d'armes, n'en provoque pas moins des morts et des catastrophes qui sont véritablement, quand on se les imagine, extraordinairement violentes pour la conscience humaine. Troisième réalité également, et c'est encore incroyable, c'est que non seulement le fossé entre les riches et les pauvres s'est accru et a augmenté, non seulement les morts se comptent par dizaines de milliers, mais ce qui devrait être la logique immédiate de cela, c'est que les flux financiers partent des pays riches pour s'orienter vers les pays pauvres. Or, la réalité comptable est absolument incroyable. Au compte de la dette, l'argent qui quitte les pays pauvres pour rembourser les pays riches est plus important que le soutien des pays riches aux pays pauvres. En d'autres termes, les gens meurent au sud et payent davantage au nord. Les gens se confondent dans le luxe et le superflu au nord et reçoivent du sud plus d'argent qu'ils n'en donnent. C'est la réalité comptable de notre époque. Les flux financiers sont plus importants du sud au nord que du nord au sud. Et rien que cette logique montre que ce que nous proposons comme ordre du monde aujourd'hui et que ces relations nord-sud sont proprement révoltants. Autre chose également qui est liée à cette logique infernale qui est la gestion de la dette. Si 40 000 personnes aujourd'hui meurent de faim par jour, les statistiques restent des statistiques bien sûr et qui nous dégagent des moyennes disent et révèlent que ce qui est dû au compte de la dette, à savoir ce que les pays pauvres doivent rendre d'un soutien injustement et mal donné dans les années 70, nous y reviendrons, provoque chaque jour 10 000 morts. 10 000 morts au compte de la dette. Et pour tout musulman dans cette salle, quand on dit dette, ça veut dire gestion inconsidérée depuis les années 70 de l'argent des pétrodollars. Nous y reviendrons. Parce qu'à un moment donné aussi, il faudra que nos voix se fassent entendre sur ce que l'on fait de l'argent, dit de l'argent des musulmans. Nous y reviendrons. Dernier élément, quelle réalité du monde ? La réalité du monde, c'est que la promotion de l'éducation, contrairement à ce que nous pensions, diminue. La réalité de la promotion de l'éducation aujourd'hui dans le monde est en voie de diminution. Un monde si moderne avec des êtres de plus en plus ignorants. Je parle en termes de quantité. Des moyens hyper sophistiqués au nord et la production d'un analphabétisme fonctionnel dans le sud. C'est la réalité de notre monde. Vient s'ajouter à cela, pour qui a compris le sens de la démocratie, c'est-à-dire le droit des citoyens à choisir leurs représentants, si l'on comprend qu'il n'y a pas de démocratie sans éducation, comprendre que quand il y a moins d'éducation, il y a forcément moins de démocratie. Et c'est la réalité des pays, contrairement à ce que l'on dit. Je reviendrai sur ces réalités en les analysant quelque peu. Autre réalité aussi, la diminution des sphères d'indépendance. Parce que là aussi, nous avons été trompés. Un président libre de dire ce qu'il dit n'est pas aujourd'hui dans le Sud l'expression de la liberté, car nous avons appris depuis aujourd'hui 50 ans que la liberté politique n'est rien sans la liberté économique. Et que le primat de l'économie dans la mondialisation est une des constantes que l'on voit partout et que l'indépendance économique a diminué pour tous les pays du Sud. Pour tous les pays du Sud, l'indépendance économique, par cette fameuse mondialisation, a renforcé le pouvoir des riches, diminué fondamentalement le pouvoir de tous les pays pauvres, de tous les pays du tiers-monde. Et pourtant, quand on a cette vision du monde qui est accablante, et dont chacun d'entre nous, ici, et c'est ça qui est troublant dans cet ordre du monde, c'est qu'aujourd'hui on peut regarder, et André Gorz avait raison, André Gorz, qui est un penseur marxiste, relevait dans un livre où il parlait de la fin du prolétariat quelque chose qui était sans doute la chose la plus pernicieuse du système. C'est la formidable force du système et l'absence d'un responsable. Le système se développe et trouve sa propre logique, mais vous pouvez difficilement pointer un homme en disant « il est responsable ». Et quand je vous vois dans la salle et quand nous discutons ensemble, ce qui est également une dimension réelle, c'est qu'aucun d'entre nous aujourd'hui ne peut se sentir coupable de ce système, même s'il en use, et même si nous faisons partie ici à La Réunion de ceux qui sont les privilégiés de la planète. La réalité pour nous, c'est le passage de la légitimité de ne pas se sentir coupable à la nécessité de se sentir responsable. Toute la dimension de la réforme et du changement, c'est cette dimension, non pas une culpabilité que personne ne peut ressentir ou ne ressent parce que ce n'est pas la réalité de sa vie, mais la dimension de responsabilité dont nous parlerons, ce sera la dernière partie. Dernier élément en guise d'introduction sur lequel j'aimerais véritablement vous interpeller. Parce que quand vous lisez un certain nombre de journaux, quand vous lisez un certain nombre d'analystes ou les recherches, et même quand vous lisez certains rapports de la Banque mondiale ou certains rapports de l'Organisation des Nations Unies, on nous présente parfois, souvent, presque exclusivement, la réalité d'un monde en crise. Et de la façon dont je viens de vous le présenter, on pourrait presque objectivement se dire « le monde va mal, le monde est en crise ». Et pourtant ce n'est pas vrai. Et pourtant le système économique est en train de vivre de sa logique la plus claire. Ne pensez pas que le système ne fonctionne pas. L'économie libérale n'a jamais été aussi logique avec elle-même. Il n'y a pas de crise. Il n'y a de crise que dans nos consciences et dans notre morale et dans notre éthique. Mais il n'y a pas de crise dans le système. Il n'a jamais été aussi perfectionné et performant qu'il ne l'est aujourd'hui. La réalité de sa logique se manifeste dans cette réalité que nous vivons. Il n'y a pas de crise. Et on a très très vite, et là aussi, nous sommes un peu très très rapidement convaincus des propos dominants. Nous avons très très vite éliminé de nos analyses les analyses scientifiques ou les analyses qui essayaient de l'être de la structure de l'économie qu'avait proposé Karl Marx. Et là même les musulmans font une confusion fondamentale. Ils confondent l'idéologie marxiste avec un travail de l'économiste Karl Marx et Friedrich Engels, qui avait fait un travail scientifique et mis en évidence la logique d'un système, et qui disait simplement une chose qui est vraie. Le système veut pour lui-même qu'une poignée tienne le monopole et qu'une majorité en souffre. La logique est vraie. Elle est une analyse, mais qu'il faut que nous fassions une différence nous-mêmes entre ce que Karl Marx et son collègue ont fait comme analyse économique et qui déterminait une logique, et jusqu'à aujourd'hui, 1999, ce qu'ils ont mis en évidence en matière d'un système qui n'est pas en crise quand il produit de la pauvreté mais confirme des richesses, n'est pas en crise du tout, n'est pas une réalité. D'ailleurs, c'est même plus pernicieux que cela, une chose auquel n'avaient pas pensé les économistes du 19e siècle. C'est un système économique qui est dans sa toute grande et sa belle logique, en produisant de la richesse pour quelques-uns et en répandant la pauvreté pour les autres, et qui s'auto-alimente du sentiment de crise de ceux qui le vivent. comme un sentiment de culpabilité qui confirme un système, mais continue également à confirmer la pauvreté qu'il engendre, avec un sentiment d'impuissance. Ce que j'aimerais mettre en évidence par là, c'est que, contrairement à toutes ces analyses sur l'économie aujourd'hui, contrairement à tous ces propos alarmistes, la logique du système se confirme, et que de ce point de vue-là, il ne faudrait pas jeter trop vite des analyses qui nous tenaient en garde et qui nous prévenaient de la réalité d'une logique économique qui, pour elle-même, produit l'inhumain, mais produit la richesse de quelques-uns. Voilà pour cette introduction qui met en évidence avec un paysage de la réalité actuelle une autre dimension sur laquelle nous voyons le primat de l'économie sur toute autre dimension politique, sociale et culturelle. C'est la réalité du rapport Nord-Sud avec le primat de l'économie et l'ensemble des éléments que j'ai mis en évidence. Avec ce paysage, entrons maintenant dans la première partie de l'exposé qui met en évidence la réalité de notre siècle. Rapidement brossée, vous comprendrez bien que pour une conférence comme celle-ci, avec la dimension surtout éthique qui nous intéresse, parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas seulement d'observer le monde et de regretter ses déficiences, c'est d'observer le monde pour devenir l'acteur de ses réformes, et non pas l'observateur de ses déficiences. C'est vrai pour toute croyante et pour tout croyant, c'est vrai pour tout humaniste. Être l'acteur des réformes et des résistances d'ailleurs, et non pas l'observateur des seules déficiences du monde. Ce que trop souvent d'ailleurs, nous sommes amenés à être. Eh bien, quelle est la réalité de ce siècle sur laquelle, effectivement, nous avons à réfléchir? Première dimension que nous connaissons et sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais quelque chose s'est passé dans les consciences politiques au tournant de la moitié du siècle, au moment de ces décolonisations. Nous avons pensé effectivement, et c'était la réalité d'un grand espoir, le grand espoir de tout ce qui va donner à partir des années 1950, en particulier 1955, quand il y avait ces deux blocs, le mouvement des non-alignés, la promotion des indépendances politiques pour les pays du Sud. Ce processus de la décolonisation s'appuyait sur un postulat fondamental. Si tu détiens les rênes du politique, tu détiens les rênes du développement. On a pensé pendant longtemps que le développement pouvait se faire à partir du moment où on avait l'indépendance politique. J'avais cité avant-hier les propos de Théévoïde Géré qui manifestait dans son livre célèbre « La pauvreté, richesse des peuples » combien cela avait été dans la conscience des pays du Sud un tremblement de terre que de se rendre compte qu'en leur donnant le pouvoir politique, on avait retiré aux pays du Sud l'indépendance économique. Ce moment-là est un moment particulièrement important dans beaucoup de consciences de mouvements d'indépendance, de mouvements qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur peuple et qui avaient surtout insisté à cette époque-là sur l'indépendance politique, et c'était légitime à cette époque-là, il ne pouvait pas en être autrement. Quelques mouvements dans certains pays du monde avaient insisté sur une autre dimension qui était le registre culturel. On y reviendra parce qu'il est capital. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à une considération fondamentale. C'est qu'il ne peut y avoir, pour beaucoup de pays dans le Sud, de véritable accès à l'indépendance et au programme de constructif, d'affirmation d'un pouvoir et d'affirmation d'une autonomie politique, culturelle et économique, si ce n'est par l'affirmation concomitante d'une identité spécifique, voire d'une identité en rupture avec le modèle dominant. J'y reviendrai dans la troisième partie. Ce moment-là des indépendances a été accompagné très rapidement par la mise sur pied de choses, d'institutions qui sont particulièrement importantes et que nous devons connaître. Elles sont aujourd'hui les régulateurs de beaucoup de relations nord-sud. Et là, il faut aussi que nous soyons au courant de cela, parce que la meilleure des résistances commence par le minimum d'informations sur les rouages et les réglementations du monde. Première dimension, à partir des années 40, et qui va faire justement et confirmer ce déplacement entre ce que nous avions pensé être l'indépendance politique, et on va s'apercevoir qu'avec le pouvoir politique, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qui va confirmer cela? Suzanne George, l'économiste, dont véritablement, je vous encourage à reconsidérer les textes, parce que vraiment, elle aide énormément à la compréhension du rouage, elle va très loin dans la dénonciation, mais met en évidence qu'au moment où nous passons à l'indépendance économique dans les années 40, des institutions se mettent en place qui vont confirmer le déplacement du pouvoir. Et ces deux institutions fondamentales que l'on connaît aujourd'hui sont les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les deux institutions présentées comme le soutien des peuples et des pouvoirs, mais qui aujourd'hui jouent le rôle du maintien par l'idéologie d'un système qui accroît, confirme et tue tous les jours des êtres humains. La réalité de ces institutions à partir des années 40, c'est fondamentalement d'abord de confirmer par l'économique cette fois-ci et de confirmer par les soutiens tels qu'ils vont se préciser dans les années et décennies qui vont suivre, des soutiens orientés à des pouvoirs, voire, et nous en parlerons tout à l'heure, des programmes d'ajustement structurel qui sont inédits sur ce qu'ils confirment sur les populations. Deuxième élément dans le déplacement des pouvoirs, et nous le savons aussi, c'est la présence à côté et en parallèle des pouvoirs politiques de ce que vous connaissez, à savoir les multinationales. Les multinationales confirment par le politique et qui sont véritablement des pouvoirs dans le pouvoir et des pouvoirs au-delà de n'importe quel pouvoir politique, leur formidable puissance, avec des réalités économiques et la réalité d'une véritable exploitation des populations du Sud par une dimension et une confirmation et une actualisation de tout ce qui est de l'ordre du commerce, des termes de l'échange et de l'achat qui peut aller jusqu'à acheter si on prend un ordre de valeur, à un franc quelque chose à un paysan et de voir décupler sa valeur jusqu'à 150 au moment où on le revend dans les pays du Nord. Une exploitation terrible qui fait de tout paysan un esclave d'un nouvel ordre économique avec des multinationales sur lesquelles je dirai un mot tout à l'heure, mais que nous connaissons et que nous savons, avec bien entendu tout ce qui concerne la mainmise sur les matières premières, du café, de tout ce qui fait la richesse des peuples du Sud, mais en même temps non pas simplement en tenant les richesses des matières premières, mais également tout ce qui concerne le transport de ces matières premières, dépossédant les peuples et les pouvoirs de toute possibilité d'avoir accès à une indépendance économique. Je ne veux pas, dans un propos comme celui-ci, qui est ouvert et général ici, entrer trop avant dans des considérations économiques. Je sais que ce n'est peut-être pas la formation d'un certain nombre d'entre vous. Permettez-moi de faire simple, de ne pas entrer dans les détails, mais de vous mettre en évidence la réalité de systèmes et de fonctionnement qui, jusqu'à aujourd'hui, développent, bien entendu, et provoquent des catastrophes. Avec les multinationales, ce pouvoir parallèle, cette capacité que l'on sait être dévastatrice sur le plan politique, je ne vous en donnerai qu'un exemple. Un seul exemple, au début des années 70. Vous savez, vous avez entendu parler d'un homme au Chili qui s'appelait Salvador Allende. Salvador Allende, c'est l'idée d'un socialisme qui s'appuie sur le peuple et qui ne veut pas se soumettre à l'autorité et à la puissance en particulier américaine. La réalité, c'est que cet homme et son projet politique a été l'objet d'une conspiration de plusieurs forces avec le pouvoir américain, des multinationales. On met en évidence que pour savoir quelle était la dimension de fragilité de son économie, c'est par ordinateur qu'on a fonctionné et que par façon cyclique, on s'est attaqué à l'ordre, à l'ordre économique de ce pays-là pour en arriver avec la dernière touche, la grève des camionneurs. La grève des camionneurs a été la goutte d'eau qui a fait tomber Salvador Allende. Et tout ceci est décidé par des logiques, non pas simplement du pouvoir américain, mais de l'appui de multinationales qui savaient parfaitement comment déstabiliser un homme. Et cette résistance de l'être d'un homme et de toute une vision d'une idéologie a été mise là-bas par la conspiration d'un pouvoir et de multinationales qui voyaient en cet homme-là une gêne définitive à un système et à une volonté d'hégémonie, et surtout à des enjeux économiques particulièrement importants. Toute personne qui étudie cette histoire du Chili ne peut être que non seulement choquée, mais en même temps en prendre de la graine, parce que l'histoire se répète et que cette façon d'agir du pouvoir politique s'appuyant sur des multinationales ou des multinationales jouant des pouvoirs politiques a été une constante depuis maintenant 30 ans. Il n'y a qu'à voir. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous donne un autre exemple quand même. Ce qui fut le sort d'un homme qui avait décidé de ne pas se soumettre au Fonds monétaire international et de résister à la politique française, et qui était au Burkina Faso. Comment s'appelle-t-il ? Thomas Sankara, qui fut effectivement éliminé par sa volonté, pour sa volonté de résistance, en tout cas aux politiques qu'on lui imposait. Troisième élément ici, qui va être, à partir de ce déplacement du pouvoir politique vers le pouvoir économique, une confirmation formidable. Nous avons pensé dans les années 70, et on nous a même fait croire, que toutes les organismes de tous les pays de l'OPEP, détenteurs du pétrole, pourraient manifester une indépendance formidable. Et aujourd'hui, l'histoire du pétrole dans les années 70 montre un autre visage que le visage d'une indépendance d'un groupe de quelques pouvoirs qui avaient pu ébranler le monde. On s'en souvient nous-mêmes en Europe, où nous avions des dimanches sans voiture parce qu'il y avait pénurie, les pays producteurs de pétrole faisant de la rétention dans le commerce et dans la distribution. Aujourd'hui, l'on sait que le pouvoir américain et que les multinationales du pétrole étaient beaucoup plus impliquées dans le phénomène qui a consisté à retenir les réserves des pays producteurs de pétrole pour pouvoir valoriser la production également et la réserve des ressources pétrolières des États-Unis. Il y a, et on le sait aujourd'hui, eu une collusion entre les multinationales du pétrole qui détenaient les ressources aux États-Unis et la rétention des pays producteurs de pétrole. Ces choses-là sont aujourd'hui de plus en plus mises en évidence, elles sont connues. Ce qui est plus grave, c'est qu'à partir des années 70 et l'augmentation du prix du pétrole, des sommes extraordinaires vont se retrouver concentrées entre les mains des gouvernements des pays producteurs de pétrole. Ce qui, et Suzanne George le dit dans un ouvrage extrêmement important sur la dette, elle met en évidence le fait que ça aurait été une formidable occasion dans les années 70 que ces sommes alors que le monde et le tiers-monde étaient en situation difficile, que des pays musulmans utilisent cet argent et redistribuent à des pays dans le tiers-monde pour pouvoir les aider au développement. Ce ne fut pas le cas. Mis sous pilotage automatique par les pouvoirs et en particulier les États-Unis, pouvoirs et ce qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les grandes puissances, les pays du Golfe, avec des sommes, des pétrodollars incroyables à n'en savoir qu'en faire, vont se demander conseil à leurs interlocuteurs que faire de cet argent. Et ce qui aurait pu être une formidable occasion de développement du Sud, et véritablement aussi une véritable défense de projets qui partaient du Sud, va se transformer par la confirmation et l'aggravation des déséquilibres de l'ordre du monde. Comment les pays détenteurs de ces pétrodollars vont mettre cet argent dans les banques occidentales. Les banques occidentales, avec des sommes incroyables, ne savent plus que faire de ceci et trouvent une issue. Donner aux pays du Sud cet argent avec des taux d'intérêt extraordinairement attractifs dans un premier temps, mais qui vont s'avérer être la perte de ces pays, puisque cet argent-là va partir au Sud avec des taux d'intérêt, et qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les dettes des pays du tiers-monde sont incroyablement élevées. Et je suis content d'entendre Suzanne George qui s'étonne, comme chacun d'entre nous devrait s'étonner, que des pays musulmans, avec des millions et des millions de dollars, qui pourtant se targuent politiquement et socialement de suivre les enseignements musulmans, se permettent économiquement de redonner cet argent à des banques, à des taux d'intérêt extraordinaires, et de provoquer de cette façon-là, en contradiction totale avec les enseignements islamiques, la mort et la destruction de tant de pays du Sud. Elle s'en étonne, elle est seulement étonnée, nous devrions en être révoltés, parce que ce n'est pas fini, les choses continuent. Des pouvoirs avec des sommes extraordinaires sont en train de provoquer des situations catastrophiques. Et je dirais entre parenthèses que nous ne devons pas nous satisfaire de voir ces pays, pour compenser des politiques iniques, venir dans quelques pays du Sud avec quelques institutions pour donner quelques milliers, comme s'ils compensaient par quelques milliers de dollars des millions de pertes et des milliers de morts. Ces institutions qui viennent de pays du Golfe et qui font la charité quand tout le système économique qu'ils défendent provoque la mort et la désolation. La charité d'une main ne nous fait pas oublier les injustices et les horreurs que le système que nous défendons provoque. Vous le savez également, je n'insiste pas, tout ce qui concerne les termes de l'échange qui fait qu'on achète à bas prix les matières premières du Sud et qu'on leur revend, et qu'on les termes de l'échange des productions de tout ce qui se fait au Nord est multiplié en matière de vente et de prix de vente. Ces dimensions qui sont vraiment le déséquilibre des termes de l'échange et que René Dumont ne cesse maintenant depuis 40 ans de dénoncer en disant « Mais comment se fait-il que tout ce qui se produit au Sud soit vendu pour rien, acheté presque rien, et tout ce qui se produit au Nord soit d'un tellement protégé en termes de valeur que cela produise de tels déséquilibres que finalement au Sud vous pouvez augmenter tant et tant la production, le déséquilibre est tel que vous ne faites que confirmer votre perte. La réalité des termes de l'échange. Quatrième élément dont nous sommes rendus compte, c'est que toute cette situation de l'économie qui est devenue prédominante a encore provoqué une chose absolument effroyable, de cynisme. Effroyable de cynisme parce que, au nom des intérêts économiques, nous allons voir se passer deux choses que tout être de conscience, chaque fois qu'il le peut, doit dénoncer et en tout cas le savoir. Première dimension, au nom des logiques économiques, les pouvoirs du Nord ont utilisé à géométrie variable les soutiens politiques. La réalité aujourd'hui des peuples que l'on soutient, des gouvernements que l'on soutient au Sud, ça n'est pas la réalité de pouvoirs qui défendent ou non les droits de l'homme. Ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. La réalité, c'est comment le pouvoir est inféodé aux logiques économiques que nous défendons. La réalité, on la connaît. On a mis en évidence un certain nombre de pouvoirs en les stigmatisant, en disant ils ne reconnaissent pas les droits de l'homme. Et l'on sait que ce n'est pas la qualité des droits de l'homme qu'ils défendaient, mais plutôt leur qualité d'inféodation aux logiques des pouvoirs. C'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai également pour l'Europe. Les droits de l'homme sont le prétexte de logiques économiques peu avouées. Et de ce point de vue-là, il y a une lecture sélective. Sélective. Je vais vous donner un exemple qui est le plus criard, parce que même les musulmans aujourd'hui ne sont même pas au courant de ces choses-là. Un exemple très récent, et je parle de situations récentes, mais je pourrais prendre X pays depuis les années 50. Mais je prends un exemple très récent, le Soudan. Le Soudan, aujourd'hui, présenté sur le plan international comme un pouvoir islamiste s'opposant à tous ces prosélytes, imposant un système juridique barbare et avec une forte concentration sur ces dérives totalitaires. Loin de moi de dire que tout est faux, des dérives totalitaires, un pouvoir qui ne laisse pas beaucoup de liberté, c'est certain. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'analyser la lecture que l'on a faite depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui de la réalité de ce pouvoir. Je vous donne un exemple. En 1989, c'est la prise du pouvoir de ce nouveau régime. Jusqu'en 1992, le Fonds monétaire international, dans ses rapports, relève que ce pays est en train de présenter la gestion par la culture la plus intéressante, un taux de croissance de 13% avec des programmes de prise en charge locaux, une production agricole tournée vers le vivrier, c'est-à-dire vers la production qui va pouvoir aller vers la population. On a mis en évidence, quand il s'est avéré politiquement, que le pouvoir soudanais se refusait à accepter l'orientation américaine. Tout à coup, le Fonds monétaire international ne parle plus du Soudan. Il est rayé de la liste des bénéficiaires. Il sort de la liste de ceux qui peuvent collaborer avec les États-Unis, tombe dans la liste noire, et tout à coup, ce pays modèle, il y a 2 ans, devient le pays noir une année plus tard. Or, la réalité de la lecture économique que l'on en a faite à partir des grilles de lecture du Fonds monétaire international a suivi exactement la lecture idéologique qu'ont proposé les États-Unis, soumis aux États-Unis ou encore possiblement soumis aux États-Unis, la lecture économique est bonne. Insoumis aux États-Unis, la lecture économique est mauvaise, la lecture politique est définitivement noire, le pays est à classer au rang des insoumis. Pire, tellement la propagande est forte que les musulmans répètent à l'envi que ce pays est devenu le sommet du non-droit et de la discrimination. Or, tous les chiffres d'Amnesty International sont clairs sur ce plan-là. L'Égypte, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, tous des pays bien cotés dans la modération et l'ouverture à l'Occident, sont sur le plan du respect des droits de l'homme en matière politique plus gravement atteints, plus insoumis aux règles élémentaires du droit de l'homme que le Soudan. Mais ça ne fait rien. Ce qui compte, ce n'est pas ce que fait le Soudan, mais c'est comment il se plie à l'autorité américaine ou au système dominant. Cette lecture-là, il faut la faire, parce que cette lecture-là, cela ne veut pas dire, comprenez-moi bien, que l'on soutient sans nuance un gouvernement. Il faut être critique, et je le suis, je l'ai été par écrit, je le suis par oral. Mais la critique fine ne permet pas, ne doit pas nous laisser aller à la simplification des lectures qu'on nous propose. Aujourd'hui, le Soudan est plus dangereux idéologiquement que véritablement traître sur le plan du respect des droits de l'homme. C'est ça la réalité. Et ces lectures idéologiquement orientées sont connues. En d'autres termes, vous pouvez entendre d'un président que le gouvernement tunisien, et ça vous le savez, est formidablement modéré, très très ouvert, et vous savez que c'est sa qualité d'intégration économique aux régimes européens qui le met en aussi bonne position aujourd'hui dans le classement des pays ouverts. Mais toute lecture plus fine des droits de l'homme met en évidence que ce pays est un véritable pays sinistré, où le droit d'un homme ne vaut pas grand-chose par rapport à la dictature de cet homme qui aujourd'hui maintient le pays sous une chape de plomb. Dernier élément sur ce qui s'est passé, ce que l'on a vu dans ce siècle également, dans le déplacement de l'économie avec ces dictatures, avec ce jeu lié à la lecture du droit de l'homme, c'est effectivement une autre chose sur laquelle il faut aussi que nous ayons quelque attention. C'est le développement de ce qui s'appelle les économies parallèles. Une économie de l'ombre. Deux choses aujourd'hui sont particulièrement importantes dans l'économie de l'ombre. L'économie des armes et tout ce qui a trait aux stupéfiants dans le monde. Aujourd'hui, l'on sait que par rapport à tout ce qui concerne les armes, des économies et des finances et des bénéfices effroyables sont faits sur le dos de ces réalités des pays du Sud. En d'autres termes, aujourd'hui, il paraît assez clair à tout observateur un peu attentif des réalités dans le monde qu'un conflit dans le Sud peut être nécessaire à l'économie des armes dans le Nord. Que la réalité de cette production des armes a besoin de conflits pour se confirmer. Qu'il y a énormément à gagner, à analyser ce qui s'est passé tout de suite après la guerre du Golfe en matière de production d'armes et de vente. Savez-vous que dans les 6 mois, d'ailleurs c'est très étonnant, les États-Unis ont réussi cette formidable opération avec l'opération de la guerre du Golfe de confirmer leur présence dans la région, d'être maître de tous les vols et de pratiquement tous les déplacements militaires dans la région et de se faire payer pour avoir assis, écrasé et tué. Payé par les propres États très peureux et très frileux, au premier rang desquels, vous le savez, l'Arabie Saoudite, qui a payé, grassement payé. Même le Japon, en mal de conscience, a donné son obole pour les États-Unis. Mais ce n'est pas rien. Dans les 6 mois qui ont suivi, 19,5 milliards de ventes d'armes à l'Arabie Saoudite par les États-Unis. C'est ça la réalité. Vous avez peur, on va vous fournir en armes. Et la réalité, c'est cette économie-là qui est une économie qui gère énormément les relations avec le Sud, qui dépense plus en armement qu'il n'investit en programmes sociaux. Et donc, cette réalité aussi exige de notre part, et je vous donne un portrait un tout petit peu sombre, mais c'est la vie quotidienne. Parce que si nous voulons une éthique demain, autant faut-il avoir la lucidité aujourd'hui. Parce qu'une éthique dans l'utopie, c'est pas ce qui va nous aider. Mais la lucidité, l'exigence éthique, c'est ce qui est attendu de nous, encore une fois, en foi et en conscience. Autre chose également qui est mise en évidence par un certain nombre de chercheurs et d'analystes, d'économistes, une chose sur laquelle on devrait quand même porter une certaine réflexion. N'avez-vous pas remarqué que tous les produits qui provoquent des drames et qui sont sur le plan de la santé et sur le plan des stupéfiants, qui provoquent pour les hommes, dans leur consommation, des effets néfastes et négatifs. Si si vous regardez la liste des produits permis et des produits interdits, vous allez vous rendre compte que la liste correspond exactement au lieu où ils sont produits. En d'autres termes, nous savons aujourd'hui qu'en matière de production de la mort, c'est-à-dire d'effets qui provoquent la mort sur les populations, l'alcool, au niveau de la circulation et au niveau de cette production de la mort sur la santé, les effets sur la santé est grave. Elle est produite dans le Nord, permis et légalisée dans le Nord. Le tabac, producteur de milliers de morts annuellement, soumis à des programmes de sensibilisation, est produit dans le Nord et légalisé par le Nord. Mais les stupéfiants, qui sont comme la cannabis, ou qui sont comme tout ce qui concerne les autres, et qui, en termes comptables, sont moins nocifs en termes comptables, sont tous soumis à la considération qu'ils ne sont pas légaux. En d'autres termes, ce que l'on produit est légal, ce que d'autres produisent est illégal, qu'importe le nombre de morts que cela provoque. Les effets ajoutés de l'alcool et du tabac sur la santé des gens sont de 5 à 6 fois plus importants que les effets de la drogue sur les populations, que ce soit du cannabis ou que ce soit de l'héroïne. Mais les uns sont permis, ils sont les drogues nobles, et il y a les drogues des parias, ceux qui déstabilisent l'ordre du monde. C'est la réalité. Et un monde nous propose ceci comme un ordre du monde. Et cette lecture-là ne doit pas, pour nous, passer inaperçue. Dans la réalité de ce siècle, après la colonisation politique et le déplacement du politique vers l'économique, une dernière chose que nous devons relever, c'est l'un des grands mythes de ce siècle, le mythe du développement. Et là, combien nous a-t-on menti ? Vous serez développés, mes frères, parce que nous allons vous aider. Et nous savons de quoi il retourne. Raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui de pays en voie de développement. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? De pays en voie de développement. Des pays qui, dans la décennie 80 et la décennie 90, a provoqué plus de pauvreté et plus de morts que jamais nous n'aurions pu en compter. Et on continue à leur taper sur l'épaule. Vous êtes en voie de développement. Quel développement ? Imaginez-le. Quelle espérance ? Supposez-la. Quelle utopie construire ? Vous avez le temps de rêver. Les chiffres montent tous les jours. Combien aujourd'hui les choses s'aggravent ? À tel point d'ailleurs qu'un certain nombre d'économistes n'ont pas hésité à appeler la décennie 80, puis ensuite maintenant la décennie 90, les deux décennies perdues. Nous avons échoué. Nous nous sommes trompés sur les projets de développement. Qu'y a-t-il eu d'abord ? D'abord, on nous a trompés sur le développement et nous nous sommes trompés sur le développement et au premier rang, beaucoup de pays du Sud. Comment ? Il y a eu des institutions financières qui ont été proposées par le Nord, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ce devaient être les bienfaiteurs de l'humanité. Et on voulait y croire, et certains l'ont cru, et ont pensé que le projet économique qui était sous-tendu par ces institutions allait porter ses fruits, c'était véritablement du développement. Pourquoi ? Parce que l'on disait, ce qui marche au nord marchera au sud. Et ce dont on est aperçu, c'est de deux choses. Premier élément, comme je l'ai dit, les soutiens de la banque, du Fonds monétaire international ont toujours été idéologiquement fondés, nous le savons. Alors quand on disait ça à une époque, on nous trompait. Vous savez ce qu'on nous disait ? Mais non ! Vous voulez qu'on vous montre pourquoi ce n'est pas forcément orienté, le Fonds monétaire international ? Et si vous ne connaissez pas la Suisse, vous observez et vous pleurez. Vous dites, c'est vrai. Vous disiez, ben écoutez, le Fonds monétaire international, c'est 100% dans les décisions, n'est-ce pas ? Le Conseil, à 100%. Les États-Unis, ils n'ont que 17%. Ils n'ont que 17% de part. Donc, en l'occurrence, ils n'orientent pas à eux seuls les destinations. C'est vrai. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que plus de 15% permettent le veto.
En d'autres termes, les Américains ne peuvent pas décider seuls, mais peuvent décider qu'un soutien n'ira pas parce qu'ils ont, avec les 17%, la possibilité de stopper un soutien, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises par rapport aux pays qui leur étaient idéologiquement opposés, et surtout, sans compter leurs alliances au niveau des conseils et de la gestion de cette banque, du Fonds monétaire international. Deuxième élément, et ceci je vous renvoie au texte de Suzanne George sur qui s'appelle Comment meurt l'autre moitié du monde. Comment meurt l'autre moitié du monde. Suzanne George analyse dans les rapports Nord-Sud comment est-ce que se font ou comment s'organisent les programmes de solidarité. Elle développe, je n'entre pas dans les détails, elle met en évidence comment, au sein des institutions américaines, on cible le soutien aux pays. Clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie à cet ouvrage-là, mais elle montre, elle développe sur 6 exemples comment on choisit les pays que l'on va soutenir en fonction de conditions que l'on donne à la politique qu'il faut suivre. En d'autres termes, il n'y a pas de solidarité gratuite. On soutient un pays en fonction de l'acceptation d'un certain nombre de conditions politiques. Et ceci depuis les années 50. Donc, ce qu'on aurait attendu des pouvoirs riches, ce sont des solidarités humaines. Ce sont des solidarités gratuites pour des projets de développement. Or, on s'aperçoit que ce qui a été permis en matière de soutien, de solidarité, d'envoi de nourriture, de soutien par des cargaisons, l'a été fondamentalement sur des critères politiques. C'est vrai pour la Colombie, c'est vrai pour la Jamaïque, c'est vrai pour le Mexique, c'est vrai pour les pays africains. En fonction de ce que le pouvoir, et même parfois dans ce que l'on envoyait comme dans les clauses d'un mouvement de solidarité que l'on faisait en fonction d'un pays, on mettait clairement des clauses politiques que le gouvernement du pays bénéficiaire devait accepter pour pouvoir recevoir ce soutien. C'est la fameuse loi PL48, très très connue dans l'institution américaine, qui met en évidence qu'il y a conditionnalité à la solidarité. Et cette conditionnalité passe par l'orientation et la maîtrise du politique.